France Musique. Musique et moi.
Patrick Poirot d'Arvor.
Elsa Boublil.
Tenir et se tenir, tenir bon et se tenir bien.
C'est sur cet air célèbre et joyeux, les Biamona Lieti Calici de la Traviata de Verdi, pour entrer en résonance avec votre phrase tenir et se tenir, tenir bon et se tenir bien. Patrick Poivre d'Arvor, dans ce que cela raconte de la nécessité de rester droit malgré les heurts, l'ivresse, la douleur, l'amour ou la passion, que nous vous accueillons, journaliste, romancier, essayiste, acteur, metteur en scène. Bonjour.
Bonjour Elsa.
Une belle multiplicité de casquettes où la littérature quand même et la musique semblent prédominer.
Oui, la littérature en tout cas, ça, j'ai commencé avec ça à l'âge de 16 ans et puis après je ne me suis jamais arrêté et puis la musique m'a accompagné tout le temps.
Vous venez d'ailleurs de publier La Vengeance du Loup chez Grasset, votre dernier opus. Et cette phrase de chevet, tenir et se tenir, tenir bon et se tenir bien, là aussi voilà une phrase mantra qui paraît être votre ligne conductrice depuis toujours. Et que j'avais envie de mettre en résonance justement avec cette œuvre de chevet qui est la Traviata, parce que tout y est dedans.
Oui, en fait, un jour j'ai écrit d'ailleurs un livre qui s'appelait « Tenir et se tenir », parce que, bon, et, hélas, les événements de la vie ont fait que j'ai eu des drames assez tôt, notamment Jeune, j'ai eu une maladie qui a failli m'emporter, donc c'était déjà assez difficile, puis je m'en suis sorti. Et puis après, j'ai perdu une fille, deux filles, trois filles. Donc tous ces moments ont été des moments très difficiles pour moi, et à chaque fois, je me suis aperçu que, bon, bien sûr, tenir, c'était juste l'idée de ne pas plonger, de ne pas couler, de ne pas se noyer. Mais se tenir bien en toutes circonstances, bon, que ce soit à la télévision, mais ça c'est pas trop difficile, mais dans la vie, c'était aussi important. Alors je me suis gardé cette petite...
Qu'est-ce que ça veut dire se tenir bien ?
Se tenir bien, ça veut dire dans un monde qui est pas très élégant, je trouve, hein. On parle du monde politique, mais le monde médiatique ne vaut guère mieux. Sur ces gens qui se précipitent dès qu'une place est libre, sur une façon de, je ne sais pas, enfin, une forme de petite vulgarité qui s'insinue un peu partout, de trivialité dans les propos et dans les pensées, ce qui est plus grave. C'est bien, je trouve, de se tenir le mieux possible.
La littérature, la musique peuvent être des soins, des remèdes.
Bien sûr. À cette... Parce que, vous savez, une fois que vous rentrez dans l'univers d'un grand auteur, par exemple, vous pouvez plus penser vulgaire. Alors, vous pouvez ne pas vous exprimer comme lui, bien sûr, mais vous êtes obligé de vous tenir un peu de ce point de vue, à son niveau.
Comme avec les grands compositeurs. Nicolas Stavy interprète ce nocturne en ré bémol majeur, opus 27, numéro 2 de Frédéric Chopin. Pour vous, Patrick Poivre d'Arvor, puisque vous êtes l'invité de Musique et Moi jusqu'à midi et demi sur France Musique, je crois que cela correspond à votre premier souvenir musical.
Oui.
Les nocturnes de Chopin en général, c'est ça, hein?
Les nocturnes, voilà. Bon, on a choisi le numéro 4, mais on aurait pu en choisir bien d'autres, parce que ces nocturnes m'ont accompagné dans cette période de la préadolescence à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. J'étais dans un sana, c'était assez difficile. J'ai vu des jeunes gens de mon âge partir. Et puis...
Qu'est-ce que vous aviez?
Une forme de leucémie.
D'accord.
Et en fait, pour tout vous dire, je ne croyais plus beaucoup en la vie, quoi, hein, parce que ça ne démarrait pas super bien. Et donc, c'est la période où vous commencez à être dans des angoisses adolescentes, quoi.
Existentielles.
Bah, total. Et donc... qu'il puisse y avoir un homme qui avait souffert autant que moi, ce que je pensais quand j'étais donc tout jeune homme, que cet homme ait pu produire une musique aussi pure et aussi sensible, aussi délicate, m'a donné envie de connaître d'abord la vie de Chopin. Donc j'ai lu un livre de Guy de Pourtalès, je me souviens très bien, qui m'a beaucoup impressionné, et de connaître toute sa musique. Et sa musique m'a consolé, parce que la musique peut être consolatrice. C'est pas un cataplasme, la musique, c'est pas une thérapie, mais ça peut vraiment vous accompagner dans les moments très très difficiles. Et Chopin m'a toujours accompagné. Et depuis, d'ailleurs, je le célèbre depuis une bonne dizaine d'années avec un grand pianiste que j'aime beaucoup, Jean-Philippe Collard.
On va pouvoir écouter voilà. Tout à l'heure, d'ailleurs.
Et on a commencé le jour même de l'anniversaire, du 200e anniversaire de sa naissance, donc en 2010. Lui joue Chopin, et puis moi je lis des poèmes d'amour.
Justement, en parlant d'amour, la proximité, vous disiez, il vous a accompagné, la proximité de fébrilité vous a accompagné, c'est-à-dire cette identification possible dans une forme de fragilité
Oui, puis le fait qu'il ait été malade, notamment dans cette chartreuse où il n'était pas si heureux que ça à Majorque, même s'il était accompagné de la femme de sa vie. Voilà, tout ça faisait que je me disais, tiens, voilà un grand malade, un grand sensible. Et puis voilà, je l'ai adopté comme grand frère.
Mais quand même, c'est la musique qui vous a fait vous intéresser au compositeur. Donc, ça veut dire que c'est par la sonorité de la musique que vous avez pu percevoir une fragilité.
Oui, parce que là, vous voyez clairement qu'il s'agit de quelqu'un qui est en train de parler de vous. Hein. C'est très étrange, mais c'est ça qui est magnifique dans la musique. C'est quand elle devient universelle, et à ce point universel que chacun peut se l'approprier. Et en disant, elle a été composée pour moi, c'est magnifique ça.
L'Adagietto de la 5e symphonie de Gustav Mahler, interprétée par l'orchestre de la Tonhalle de Zurich, avec à la direction Sir Georg Scholti. Et il se trouve, Patrick Poivre d'Arvor, je me disais que ça devrait vous intéresser, qu'il s'agit d'une interprétation d'adieu de ce grand chef d'orchestre, puisqu'il l'a enregistré les 12 et 13 juillet 1997 et que c'était sa dernière représentation en public.
C'est très émouvant.
Pour La mort à Venise, qui donc constitue une œuvre aussi de... Alors, est-ce que c'est de cette époque au sanatorium
Oui, tout ça va de pair. Bon, j'espère que pour les auditeurs, ce ne sont pas des choix trop morbides. Mais
en tout cas, ils sont beaux.
Ce sont des choix qui me rendent joyeux, hein, malgré tout. Et c'est pour ça que c'est très bien d'avoir démarré avec le Libiamo de la Traviata, parce que c'est la vie, c'est ça aussi. Hein, la vie, on rit, on boit, puis on pleure. Et là, bien sûr, en écoutant Mahler, d'une manière générale, Mahler était un compositeur qui me donne énormément de bonheur.
D'ailleurs, il est très présent dans votre programmation. On va
le
constater.
Oui,
au
mais
au
voilà,
de
bon. Et puis, c'est vrai qu'après, à un certain moment, mais c'est après mon propre choix personnel, il a été, sans le savoir, bien sûr, l'homme qui a illustré Mort à Venise. Donc, cette œuvre de Visconti, d'après ce si beau roman.
De Thomas Mann.
Ah, donc, voilà, forcément, quand on écoute ça, on est obligé de voir Dirk Bogarde, de voir la teinture de couler sous le soleil et de voir ce Tadzio magnifique qui passe comme ça sur le Lido.
Et ce temps qui est accordé au son et à l'image.
Évidemment.
Musique et moi, Elsa Boublil. France Musique.
Mais alors, Patrick Poivre d'Arvor, quel enfant, adolescent étiez-vous ? On dirait quelqu'un de très romantique, très intéressé à la littérature et au voyage, c'est ça ?
Oui, mais je n'ai pas pu m'empêcher parce que, justement, j'avais été poussé par les circonstances de la vie et aussi par une hyper timidité vers les livres. Donc, je suis allé très vite, beaucoup trop vite d'ailleurs, mais peu importe, vers des tas de livres que je ne comprenais pas obligatoirement, mais qui m'emballaient et qui m'ont fait découvrir un univers qui s'appelle l'univers romanesque, dont je ne suis jamais vraiment sorti, même en faisant un métier, pourtant, qui était un métier dans le monde. Mais non, cet univers romanesque, pourquoi ? Parce que j'ai découvert toutes les passions dans les livres, et comme j'avais pas d'amis, j'avais des amis qui étaient les héros de ces livres, donc c'est ça.
Pas d'amis du tout ?
Pas du tout, non. Quand j'étais
jeune,
petit jeune, voilà, j'en ai un dont je me souviens le nom. J'ai eu un an ou deux, et puis malheureusement après nos chemins se sont séparés, et lui est mort très très jeune. Il s'appelait François Basler. Et voilà, et c'est comme ça, et en même temps, sur le moment, c'est un peu dur, hein, parce qu'on se sent très solitaire, mais on a besoin d'exaltation, et moi personnellement j'avais besoin d'exaltation. Je trouvais ça dans les romans russes, je trouvais ça dans les livres un peu romantiques, et aujourd'hui encore j'ai besoin de cette nourriture là.
C'est Kafka qui vous a poussé à aller à Prague par exemple à 17
ans ?
Oui,
ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est là que j'ai rencontré Mozart.
Pure, più grave.
La scène du commandeur de Don Giovanni de Mozart, interprétée par l'orchestre baroque de Fribourg sous la direction de René Jacobs, avec de très beaux interprètes, Johannes Weiser, Alessandro Guerzoni et Lorenzo Regazzo, tous trois interprétant donc ces rôles. Enfin, c'est le moment clé, on pourrait dire, de cet opéra, Patrick Poivre d'Arvor. Donc, opéra que vous avez découvert à Prague, où oui. Don Giovanni a été créé.
Oui, absolument. C'est passé comme ça. Donc, j'étais en. Non, je faisais du stop à ce moment-là. Je devais avoir 17, 18 ans. 18 peut-être. J'avais été dormir la nuit sur le champ de bataille d'Austerlitz. Qui
ah
porte
oui.
pas ce nom en République tchèque. Enfin, à ce moment-là, ça s'appelait la Tchécoslovaquie. Donc, j'ai dormi. On était en novembre. J'étais dans un imperméable un peu fripé. J'avais mal dormi. Puis j'arrive dans cette ville sublimissime, bien sûr. Et je me retrouve devant un joli petit bonbon d'opéra, un petit théâtre qui ressemble à un tout petit théâtre. Et on me dit, ah ben, vous voyez, c'est là que Don Giovanni a été créé. Et puis vous avez de la chance, parce que ce soir, justement, il y a une représentation de Don Giovanni. Et là, je me suis inscrit, j'avais pas beaucoup de sous, mais bon, ça coûtait 3 sous à ce moment-là, c'était sous les régimes communistes, et puis j'étais au poulailler, j'ai voilà pas ça. Vu grand-chose, j'ai entendu en revanche, et là, tombé fou d'amour, et après, c'est une œuvre que j'ai mise en scène plusieurs fois pour opérer en plein air, et puis également en Belgique, avec Manon Savary, et à chaque fois j'entendais, j'écoutais, évidemment jusqu'au bout, les répétitions, tout ça, y compris les représentations. Alors j'aurais pu partir puisque j'avais fait mon travail, mais pour pouvoir entendre ça, cette scène du commandeur et de la mort de Don Giovanni, j'aurais fait n'importe quoi.
Mais qu'est-ce qui vous plaisait déjà et qui continue de vous plaire, Patrick Poivre d'Arvor, dans cet opéra? C'est le destin de ce Don Juan, c'est cette...
Oui, parce que c'est pas dans les archétypes traditionnels. Naturellement, sauf dans le théâtre antique, il y aurait eu, bon voilà, il aurait demandé pardon, etc. Non, il refuse de demander pardon. Alors qu'il sait que la mort s'avance, oui. Si jamais il ne demande pas pardon, et il affronte les choses. Il affronte, faut dire que lui-même a quand même tué le commandeur, donc il peut quand même, mais il l'affronte les yeux ouverts. Ça se fait pas beaucoup aujourd'hui, bien sûr. Et puis alors, il y a ce côté justement très très intrépide de ce personnage, qui non seulement est un collectionneur de femmes et d'émotions, mais en plus est un homme qui a beaucoup de bravoure, quoi, voilà. Alors il a des côtés très détestables, et en même temps, son courage m'impressionne.
Oui, et après ce premier choc donc à Prague, c'est là que vous avez mis un pied dans l'opéra? Enfin, c'est-à-dire,
oui.
C'est comme ça que votre passion pour l'opéra...
Je n'avais jamais entendu de ma vie un opéra avant l'âge de 18 ans. Voilà. Et c'est comme ça que les choses sont venues.
Thank you. Maria Callas, bien évidemment, qui interprète Castadiva de Norma de Bellini, avec le chœur et l'orchestre de la Scala de Milan sous la direction de Tullio Serafine. Tout ça, pourquoi, Patrick Poivre d'Arvor, pour évoquer avec vous cette chance inouïe que vous avez eue d'aller l'écouter, en fait, à l'Opéra
oui,
dernier.
Oui, parce que j'imagine que vos auditeurs doivent être saturés de Castadiva.
Et... Jamais, on peut pas être saturé.
Oui, mais quand même, bon, tout le monde a envie de choisir Castadiva, parce que c'est la vérité, on aime tous. Et donc, on a... Bon, alors, peut-être que vous avez eu pas mal de choix de ce type. Non, ce que j'avais voulu, quand vous m'avez demandé une programmation, c'était juste... dire l'émotion que j'ai eue quand je l'ai entendue. On devait être en 65-66, c'était la dernière fois qu'elle allait chanter à Paris. Elle va mourir à Paris, mais 10 ans plus tard, mais entre-temps, elle n'aura pas chanté. Et elle chante Norma, justement. Quand je dis elle chante, elle ne chante pas jusqu'au bout, parce qu'elle n'était pas super en forme ce soir-là. Et je me souviens d'avoir d'abord mendié des places, enfin une place, et j'ai fait comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire je me suis installé vers minuit aux abords de l'opéra, et il y avait une petite queue qui s'était déjà formée.
Donc la veille.
La veille, et j'ai fini, parce que quand la billetterie a été ouverte, par obtenir une place, et d'entendre à la sortie, donc sortie prématurée, tous ces snobs, pour certains d'entre eux, qui disaient « Oh, c'est plus ce que c'était, elle a plus la voix d'avant. » Ou alors quand même, il y en avait même presque certains qui disaient « Remboursé, parce qu'ils n'avaient pas eu Norma jusqu'au bout. » Eh ben voilà, écoutez, franchement, ceux-là, je sais pas où ils sont, mais je les remercie pas, parce que il y a hélas parfois dans le public des ce qu'on appelle les mélomanes, des gens qui veulent tellement étaler leur culture que c'est insupportable, ils ne laissent plus prise aux émotions.
Et vous, qu'est-ce que vous avez vécu alors? Du coup, vous étiez tout jeune.
Des frissons jusqu'au bout. Oui, oui, j'ai 18 ans. C'était cette période où je faisais du stop, où j'étais. Moi, j'avais vécu 15 ans de ma vie à Reims, puis après un an à Strasbourg, puis je venais juste d'arriver à Paris. Oui, c'était des moments absolument inouïs. qui m'ont transporté. Je savais un peu l'histoire de la Calas aussi. C'est sûr que quand on l'entend, on la regarde aussi. Et on sait que cette femme a été plus grosse, plus mince, malheureuse, et qu'elle était toujours en lutte contre elle-même. Donc là aussi, il y a une forme de solidarité. Quoi. On a envie de l'aider en l'aimant.
Et le rapport à la voix, Patrick Poivre d'Arvor, parce qu'on sent que c'est important pour vous. D'abord l'opéra, vous semblez l'aimer. Et puis on sent que vous avez quelque chose avec la voix humaine.
La voix, écoutez, moi quand j'ai commencé ici même d'ailleurs, enfin pas à France Musique mais à France,
c'était
Inter,
France Inter,
mais
oui.
Pratiquement dans
en 76,
dans ce studio.
C'est ça ?
En 71 même, 71, plutôt. Oui, je gagne un concours qui s'appelait Envoyé spécial. Je rentre donc là. Et je me suis aperçu que derrière la vitre, là où il y a votre réalisatrice, il y avait de plus en plus de gens qui venaient, etc. Mais, oh là, ce type, il a une voix, etc. Mais je ne savais pas du tout, moi. Et puis voilà, c'est comme ça qu'après, il y a eu un timbre de voix caractéristique. Donc la voix, pour moi, oui, a beaucoup, beaucoup d'importance. J'aime l'opéra, par nature. Et j'aime les voix avec ce qu'elles disent dans les entrefilets, quoi.
Donc la radio, c'est un média idéal.
J'adore. Ou... Bah, j'ai commencé comme ça et je suis très heureux à la radio à chaque fois.
Oh.
Wenn dein Mütterlein des Kindertotenlieder de Mahler, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Bruno Walter avec Kathleen Ferrier. Alors, c'est vrai que c'est extrêmement touchant d'écouter ces Kinderlieder que Mahler a mis en musique, puisque Friedrich Rückert avait perdu deux de ses enfants et Mahler a bien voulu mettre ses poèmes en musique avant même lui-même de perdre sa fille. C'est une œuvre, j'imagine, que vous avez beaucoup écoutée. Je ne sais pas à quel moment, vous l'avez dit en début d'émission, vous avez perdu trois filles.
Oui, je l'ai beaucoup écoutée, notamment après la mort de l'une d'entre elles, c'était Tiffaine, qui est morte de la mort subite du nourrisson. Et après, après j'ai perdu un autre enfant. Enfin, nous avons perdu, c'est encore plus dramatique pour la mère, un enfant mort-né à l'époque où il n'avait pas d'existence légale. Et aujourd'hui, heureusement, on peut noter leur nom sur l'état civil. Elle devait s'appeler Garance. Et j'ai perdu Solène, qui s'est suicidée, elle, à l'âge de 19 ans. Un peu comme Léopoldine de Victor Hugo. Oui. Elle est morte à 19 ans aussi. Et voilà, donc ces œuvres m'ont beaucoup accompagné, et singulièrement Kathleen Ferrier, parce que c'est une immense chanteuse et que j'ai toujours gardé, c'est un des rares disques gravés 33 tours que j'ai gardé avec moi, même si je n'ai plus rien pour l'écouter, mais il fait partie de ma vie. Et je pense qu'il a dû aider des gens, et ses poèmes ont aidé leur auteur à ce moment-là, et ils aident après les lecteurs, et ensuite après il y a les auditeurs qui arrivent. C'est ça qui est magnifique avec la consolation.
Alma Mahler en a même voulu à Gustav Mahler d'avoir mis en musique ses poèmes avant d'avoir perdu...
Comme une forme de superstition.
Ouais. Et alors justement, cette voix de Kathleen Ferrier que vous évoquiez, on parlait de la voix tout à l'heure, cette voix de contralto, dans cette, c'est la fragilité qu'elle nous fait entendre, l'émotion.
Oui, en fait, quand vous ne vous y connaissez pas beaucoup au départ, vous pouvez vous penser que c'est un homme. C'est magnifique, le contralto, c'est quelque chose qui vous permet d'être ailleurs. Vous êtes sans doute perché, hein, dans tous les sens du terme, la voix l'est, et vous-même aussi. Et vous êtes dans une autre altitude, quoi. Vous êtes avec les goélands et avec les albatros.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Ce que je trouve remarquable, Patrick Poivre d'Arvor, c'est votre capacité à garder le cap, comme l'albatros ou comme le goéland. La littérature, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, vous a beaucoup aidé, mais la musique, d'une certaine manière, aussi.
Oui, la musique a été très importante pour moi, parce que je n'avais aucune espèce de disposition personnelle. D'abord pas pour chanter, ça c'est sûr, mais je n'ai jamais joué d'un quelconque instrument.
On vous l'a pas appris.
Pas du tout. Je ne connais pas le solfège. Ma famille n'était pas musicale, en tout cas pas de musique classique. J'ai juste retrouvé un vieux disque de Péléas et Mélisandre
de Debussy
en 78 tours chez mon grand-père. Ça m'a pas donné trop envie d'aimer la musique, mais cette musique-là. Et donc après, quand elle arrive. Voilà, je suis pas éduqué, mais quand elle arrive, c'est un enchantement et c'est formidable. Je rentre dedans progressivement.
Et comment la curiosité est-elle éveillée? C'est par la conversation avec les amis? C'est par les échanges de disques?
Oui. Par exemple, je sais que un de mes amis avec qui je parlais d'Alban Berg m'a dit, mais il faut absolument que tu vois Loulou. Et ça va être bientôt distribué à l'Opéra Garnier avec Teresa Strata. Je suis allé écouter, j'étais emballé. Et Berg, jusqu'alors, c'était pas du tout dans mon univers.
Et Purcell, dis donc, est né?
Ah, ça, c'est arrivé un petit peu plus tard, mais là aussi, pardon, il s'agit de mort.
But death in vain.
When I Am Led in Earth de Didon aîné de Purcell. C'est donc ce moment où Didon se donne la mort après qu'aîné lui annonce qu'il doit la quitter par devoir. Elle chante et demande à sa confidente Belinda de se souvenir d'elle, mais d'oublier son destin tragique. Patrick Poivre d'Arvor, on l'évoquait tout à l'heure, pour vous aussi c'est une part tragique de votre vie.
C'est un morceau... Pardon, hein, il y a beaucoup de morts, hein, je sais, dans cette programmation.
Mais c'est encore, je vous ai inhérent épargné, à la vie.
Je vous ai épargné la mort d'Isolde, qui est certainement ce que je préfère.
C'est vrai.
Et notamment dans les transcriptions que Liszt en a fait pour piano. Donc, mais en même temps, la mort, on vit avec elle. Et la mort n'est rien. Je suis dans la pièce d'à côté, disait Saint-Augustin. Et bien sûr, on vit avec ceux qui ne sont plus là. Et on vit parfois même joyeusement. Avec aussi peut-être, pour ceux qui ont la foi, l'espoir de les rejoindre. Là, en l'occurrence, c'est la mort de Solène. Solène, elle aussi, s'est donnée la mort. Et en fait, elle est toujours vivante parce qu'elle a un hôpital qui porte son nom.
Oui, la maison de Solène, voilà. Dans le 13e arrondissement.
Oui,
et qui accompagne les jeunes anorexiques, enfin les gens qui ont des problèmes d'ailleurs, en rapport à la nourriture.
Anorexique, boulimique, voilà. Suicidaire. En effet, ceux qui ont des comportements alimentaires déviants et souvent des adolescents, des très jeunes ou encore des enfants de 11 à 18, 19 ans. Et voilà, donc grâce à elle, grâce à son sacrifice, entre guillemets, peut-être que des centaines, des milliers de jeunes gens s'en sont sortis parce que on a pu monter cette maison avec Bernadette Girac et je suis tellement heureux qu'elle voit le jour et puis tellement heureux quand je passe comme ça devant le boulevard de Port-Royal, devant cette maison de Solel, je me dis que ma fille est toujours là.
Oui, vous l'avez voulu, j'imagine, Patrick Poivre d'Arvor, parce que ça a permis aussi de passer outre un tabou qui était très fort, le tabou de l'anorexie, le tabou de la difficulté du rapport à la nourriture, à l'adolescence notamment. Et c'est un endroit où finalement la parole est présente, la création, l'échange.
Bien sûr.
Alors que vous avez connu l'isolement.
Oui, totalement. À l'époque, en effet, il y avait une espèce de méthode assez barbare qui coupait complètement l'enfant ou l'adolescent de ses parents ou de ses amis. Donc personne n'avait le droit d'écrire, de téléphoner, de visiter. Donc voilà, ces enfants étaient en prison d'une certaine façon. Heureusement, d'autres formes de thérapie sont arrivées. Marcel Ruffaut tout d'abord, puis aujourd'hui...
La Timone, hein, Marcel Ruffaut.
Oui, exactement. Ouais. Et il a été le premier directeur de la Maison de Solène. Et après, il a été remplacé par Marie-Rose Moreau, qui fait aussi un très très beau travail à la tête de cette maison. Et il y a beaucoup d'artistes qui viennent jouer, il y a aussi des enfants qui s'expriment dans la peinture, dans la chorégraphie,
même
dans
radio.
La gastronomie. Oui, et même un atelier radio. Voilà.
Exactement. Vous, Patrick Poivre d'Arvor, vous avez, on l'a vu en début d'émission, on ne parle pas beaucoup finalement de ce que vous faites, alors que vous faites énormément de choses. Vous avez donc présenté le journal de 20h pendant fort longtemps sur TF1 et avant ça sur France 2. Vous avez écrit, vous écrivez, vous avez même joué, vous êtes monté sur scène. Cette façon que vous avez de faire, c'est une façon pour vous aussi d'avancer.
Oui, c'est souvent d'ailleurs l'attitude des survivants, entre guillemets. Voilà, le fait de s'en sortir, sortir face à des difficultés qui sont quand même assez puissantes, vous entraîne à une boulimie invraisemblable et on est encore beaucoup plus vivant que tous les autres. Thank you.
Daniil Trifonov interprète avec l'Orchestre de Philadelphie sous la direction de Yannick Nézet-Séguin le deuxième concerto pour piano de Rachmaninov dans son dernier mouvement. Un compositeur, ce compositeur qui a écrit cette œuvre justement après un gros passage à vide, Patrick Poivre d'Arvor, avec ce regain de vie que l'on entend là dans cette œuvre,
oui.
Et qui est propre, je crois, à votre démarche, à vous finalement, c'est ne oui, jamais baisser les bras.
Il y a ce côté russe dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce mélange de mélancolie et puis à d'autres moments la dépression laisse place à une sorte d'exaltation. Vous voyez, par exemple, là, on vient d'entendre un petit passage très gracile, mais il y a d'autres moments où on a l'impression que c'est Hannibal qui passe les Alpes avec son armée et ses éléphants, et on dit, est-ce qu'il va réussir? Oui, il réussit. Et c'est ça qui est beau, j'aime infiniment. Il se trouve que ma sœur a écrit un livre sur Rachmaninov. Elle avait épousé le petit-fils de Rachmaninov. Et donc, moi, Rachmaninov, je vis avec lui depuis fort longtemps. Et je l'ai même utilisé, d'ailleurs, pour en faire le générique de mon émission littéraire Vol de nuit. Voilà. Donc, il est, là aussi, il est avec moi.
C'est justement pour en revenir à ce besoin de travailler qu'on évoquait tout à l'heure. Vous avez présenté le journal de 20 heures pendant fort longtemps. Vous êtes passé à autre chose après sans problème. Mais on se dit, bien sûr, après avoir été comme ça dans une sorte de travail permanent pendant longtemps, en écoutant cette œuvre, on se dit, est-ce que vous aussi, vous avez traversé un passage à vide compliqué?
Non, parce que justement, grâce d'ailleurs à mon métier, que j'ai aimé passionnément, j'ai eu la chance d'avoir peut-être un peu trop de lumière, mais beaucoup de lumière sur moi. Donc après, j'ai eu beaucoup de propositions de toute nature, donc mise en scène d'opéra, je faisais allusion, mais je fais beaucoup aussi de concerts lecture, ça me donne beaucoup de bonheur. Je monte sur scène, j'ai fait même j'étais au Casino de Paris l'année dernière à peu près à la même date et c'était un opus qui s'appelait Patrick et ses fantômes où je rencontrais, j'étais supposé être un metteur en scène d'opéra et je rencontrais dans mes rêves successivement Bach, Mozart, Beethoven et Eric Satie. C'est formidable et j'avais un orchestre derrière moi et je discutais avec ces personnages qui se prenaient le bec de temps en temps l'un l'autre et puis qui m'apprenait beaucoup et les gens aimaient beaucoup ça et les enfants souriaient, riaient parfois et applaudissaient, ça me rendait très heureux.
Moussorski, vous l'avez pas rencontré?
Non, alors pas du tout.
Thank you. La cabane sur des pattes de poule des tableaux d'une exposition de Moussorgski interprétée par Jean-Philippe Collard qui nous intéresse ici, Patrick Poivre d'Arvor, puisque c'est l'interprète
ah oui,
que vous aimez.
J'ai rencontré Moussorgski, mais j'ai beaucoup rencontré Jean-Philippe depuis mon adolescence, justement, parce qu'il se trouve qu'on a à peu près le même âge et on est né à quelques kilomètres l'un de l'autre. Lui à Mareuil-sur-Aille, donc dans le vignoble champenois, et moi à Reims. Et on est très amis, très 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 liés, et ensemble depuis une dizaine d'années, j'y faisais allusion, on joue, alors lui il joue plutôt, il joue Chopin, et puis moi je récite des poèmes tirés de mon anthologie, des plus beaux poèmes d'amour. Puis ça nous arrive de faire autre chose d'ailleurs, de célébrer Proust comme on l'a fait il n'y a pas si longtemps à Cabourg, ou de se retrouver dans d'autres circonstances. On aime ça, ne serait-ce que parce qu'il y a la camaraderie qui est très forte, l'amitié c'est vraiment très très important.
Et puis la parce sensibilité qu'on
se connaît. La sensibilité aussi, il a une sensibilité inouïe, là on s'en aperçoit parce que c'est une œuvre de virtuose qu'il vient d'interpréter. Là, il est heureux comme tout parce qu'il vient de terminer de graver un Granados qui, depuis très longtemps, lui donnait envie. Ben voilà, c'est formidable de voir cette passion qui court dans ses veines aujourd'hui encore, et c'est magnifique.
Donc, ces tableaux d'une exposition, c'est l'histoire d'une amitié, puisque Moussorgski a eu envie de mettre en musique les 10 vignettes inspirées des tableaux de son ami Hartmann. Mm-hmm. Vous, j'avais envie de vous demander si Jean-Philippe Collard vous a initié à un répertoire musical, s'il vous a permis de mieux comprendre le piano, mieux comprendre la musique en général.
Alors, il suffit de l'écouter. Oui. Ouais, c'est ce que je fais, évidemment, dès que j'ai terminé ma petite partie. Je l'écoute, je vois, je comprends comment on peut dire que d'un soir sur l'autre, il joue différemment. Ça, c'est déjà beaucoup. Et puis, on a beaucoup parlé, évidemment, des gens qu'il appréciait, des gens comme Horowitz, qui presque d'une certaine façon l'ont formé, ou en tout cas l'ont mis en lumière. Et donc, j'ai appris à son contact beaucoup.
On a pu vous reprocher de vouloir ou savoir tout faire, Patrick Poivre d'Arvor, mais on en parlait hors micro. Finalement, qu'est-ce qui vous a mené à toujours aller là où votre désir était ?
Ah ben parce que je déteste avoir des regrets. Je trouve que c'est horrible dans la vie d'avoir des regrets. Des remords, ça va, mais des regrets, non. Et donc, qu'est-ce qu'on peut regretter ? Ben, on regrette les choses qu'on n'a pas fait. Et quand on a la possibilité, il faut se jeter à corps perdu. Là, je vais peut-être me lancer bientôt dans un nouveau défi sur les planches. Parce
encore
que ça m'excite. Oui, 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 ça m'excite. Et puis quand je sors la vengeance du loup, ben, qu'est-ce que
voilà,
je fais en ce
grassé.
Moment ? Je suis en train d'écrire la suite, je ne peux pas m'empêcher. Et puis j'ai un autre livre comme ça en préparation aussi autour de l'enfance. Donc il y a plein de choses qui m'excitent dans la vie. Et elle peut être tellement belle, elle peut être chienne, on l'a vu et on l'a entendu même tout au long de cette émission, j'en ai parlé. Mais elle peut être belle et donc il faut y aller, il faut la prendre à vraiment goulûment. Et j'aime la vie pour ça, et elle nous réserve tellement de belles choses, à condition de sortir de chez soi, et puis bien sûr, de les tenter ces choses-là.
Et de rester en éveil.
Rester en éveil. Rester en éveil, il faut toujours rester aux aguets, ça c'est très important.
Ça c'est le journaliste.
Oui, oui, ouais. Oui, mais tout, pas uniquement les oreilles, les narines, il faut tout ça être, les yeux bien sûr.
On va se quitter avec une œuvre, j'aime bien demander à mes invités quelle serait l'œuvre dont ils auraient honte, mais qu'ils assument quand même. Vous, c'est oui. Le pêcheur de perles par Tino Rossi.
Ah oui, oui. Alors je vous rassure tout de suite, quand je dis j'avais honte, oui, Tino Rossi, qui était considéré comme un chanteur pour les vieilles dames. Eh bien, un jour, dans une émission de radio, j'ai entendu dans sa programmation quelqu'un qui l'avait choisi, c'était le directeur de l'Opéra Comique.
Olivier Mantegui, donc.
Exactement. Et ça m'a décomplexé. Alors je me dis, bah lui aussi, il aime Bizet, chanté par Tino Rossi.
Et bien, on le salue, on se quitte. Je rappelle à nos auditeurs que La Vengeance du Loup a paru chez Grasset. C'est donc le dernier roman de Patrick Poivre d'Arvor. Merci beaucoup d'être venu partager cette heure et demie sur France Musique. Et puis à bientôt.
Merci Elsa pour ce très beau moment.
Merci.
Je crois entendre encore caché sous les palmiers sa voix tendre et sonore.
Rossi, pour terminer cette émission en compagnie de Patrick Poivre d'Arvor, qui était donc l'invité de Musique et moi ce matin. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Merci à Valérie Lavalard qui était à la prise de son ce matin, Sophie Pichon, réalisation, Valentin Carpentier, attaché de production. On se retrouve dimanche prochain à 11h. Je vous souhaite d'ici là une très belle semaine à l'écoute de France Musique.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.